Mission Vision avec Alain Renaud.
Eh bien, bienvenue à Mission Vision pour une toute dernière émission présentée en partenariat avec le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Mon nom est Alain Renaud. Et j'ai eu le plaisir d'animer et réaliser plus d'une vingtaine d'épisodes de cette émission, abordant surtout les enjeux touchant la communauté des personnes aveugles et malvoyantes. J'aimerais remercier là, tous les invités, mes invités, qui sont venus à Mission Vision. Ce sont en général soit des visionnaires ou des gens en mission qui ont à cœur... la communauté et puis qui s'impliquent et font avancer les choses au niveau de l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Donc aujourd'hui, mes deux dernières invitées, dernier invité et dernière invitée, j'ai Émilie Viau du RAM et Philippe Lapointe de Canal M. Et puis, bonne émission. C'est avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui Émilie Viau, qui est coordonnatrice des services en accessibilité au RAM. Bonjour Émilie.
Bonjour Alain.
Et puis, ben écoute, je pense que tu es plus que seulement une simple coordonnatrice des services en accompagnement numérique au RAM. Je te laisserai te présenter un peu.
Oui, merci Alain. Donc, je suis spécialiste en accessibilité numérique depuis près de 20 ans. Puis j'ai aussi une très longue expérience en conception et intégration web. Puis je mets à profit cette expérience-là en accessibilité dans le cadre de mes fonctions au RAM.
OK, super. Aujourd'hui, là, tu viens nous parler d'accessibilité numérique puis d'un obstacle que les personnes qui ont des limitations rencontrent souvent là, sur les sites web. Mais d'abord, dans le fond, la question de base, hein, c'est quoi un site web accessible?
Oui, donc un site web accessible, c'est un site qui a été conçu pour être utilisable par toute personne, quelles que soient ses capacités ou ses limitations. Il existe ce qu'on appelle des standards d'accessibilité du web avec différents critères à respecter. Puis quand on applique ces standards-là lors de la création d'un site, c'est un très bon point de départ pour tendre vers l'accessibilité et pour éliminer le plus possible de barrières que les internautes pourraient rencontrer. Autant que possible, on va tenir compte de l'accessibilité dès la conception du site, puis tout au long de son développement, puis de ses mises à jour.
Bien, les barrières là, peuvent être nombreuses sur le web pour des personnes qui ont des limitations. Il y a un type d'outils qu'on voit apparaître là, de plus en plus souvent dans les sites web qui pose des enjeux, si je ne me trompe pas, là, des enjeux là, pour l'accessibilité. Comment on appelle ça donc encore les...
Les outils de surcouche d'accessibilité. C'est très intimidant comme nom, mais...
C'est quoi exactement
ça? Je peux vous expliquer ce que c'est. En fait, ces outils-là, c'est des sortes de modules que les propriétaires de sites web vont installer sur leur site puis qui vont offrir un ensemble de gadgets, de fonctionnalités automatisées pour améliorer l'accessibilité.
OK.
Il y a certaines compagnies, en fait, qui vendent ces outils-là puis qui vont jusqu'à prétendre que ça permet de rendre les sites web conformes aux normes d'accessibilité ou que ça va vous protéger des poursuites quand il y a de la réglementation particulière sur l'accessibilité qui s'applique à votre organisation. Ce qui est tout à fait faux parce qu'il n'y a aucun outil automatisé qui est en mesure actuellement de prendre entièrement en charge tous les aspects d'accessibilité et de conformité aux standards. Une des particularités, en fait, les plus connues de ces outils-là, puis ça peut vous aider à les repérer, c'est que ça vient avec une panoplie d'options pour personnaliser la présentation puis l'affichage de vos sites. Par exemple, changer la taille, la police ou l'interligne du texte, Ça peut être de modifier les contrastes, d'arrêter des animations, de lire du contenu avec une voix de synthèse, nommer que quelques exemples.
OK.
Puis, je fais une petite parenthèse ici en précisant que ça arrive dans certains sites web qu'on propose des options de présentation puis de convivialité qui ont été expressément développées pour ces sites-là.
Okay.
Donc, c'est pas de ce genre de choses-là qu'on parle tant aujourd'hui. Ce qui est fondamentalement différent quand on parle d'outils de surcouche d'accessibilité, c'est que c'est des solutions génériques, automatisées, qui n'ont pas été spécialement conçues pour votre site, puis que vous rajoutez par-dessus votre site. Un coup que votre site est fini, vous téléchargez ça, vous installez ça, puis ça se met en surcouche de votre site web puis de ses fonctionnalités existantes.
OK.
Puis une autre chose que font plusieurs outils de surcouche d'accessibilité, c'est de tenter de corriger des problèmes d'accessibilité de manière automatique en allant modifier le code qui se trouve derrière vos pages web. Ça peut être, par exemple, d'ajouter des liens pour se rendre directement au contenu principal de la page pour des gens qui ont des limitations visuelles ou motrices, ou générer des textes de remplacement pour des images qui n'étaient pas décrites à l'intention des personnes aveugles et malvoyantes.
OK. Donc, c'est ça, mais c'est pas suffisant, là, en gros, là.
Non.
Pour vraiment là, parler là, de rendre un site accessible.
Tout à fait. Effectivement, ce n'est pas une approche recommandée pour rendre un site accessible. Il y a plusieurs raisons à ça, mais aujourd'hui, j'aimerais aborder l'impact que ces outils-là ont sur la prise en main du site par des personnes qui ont des limitations.
OK.
Dans les dernières années, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont témoigné des obstacles qui étaient causés par les outils de surcouche, ce qui est en fait tout le contraire de l'effet qu'on recherche. Dans le meilleur des scénarios, c'est des outils qui sont qualifiés de redondants avec les outils, les technologies d'adaptation, puis les autres moyens d'adaptation que les gens emploient pour pallier leurs limitations. Puis dans le pire des scénarios, ces outils-là sont carrément inefficaces, voire nuisibles. Ils peuvent ajouter des obstacles qui n'étaient pas présents au départ dans le site web, puis interférer avec des technologies d'adaptation, par exemple comme des lecteurs d'écran que des personnes ayant des limitations visuelles emploient.
Okay.
Puis, en fait, l'enjeu des outils de surcouche d'accessibilité, c'est tellement grand que la Commission européenne a fait une sortie publique en 2023 pour indiquer qu'elle n'approuvait pas l'usage de ces outils-là puis que ça ne permettait pas de rendre un site web accessible.
OK. T'as-tu, as-tu d'autres exemples des obstacles, là, puis les limites, dans le fond, là, de ces outils-là?
Absolument, puis j'en ai expérimenté...
Excuse-moi.
Non, il n'y a pas de souci. J'en ai expérimenté vraiment plusieurs en tant que personne autiste qui a également des limitations visuelles. Par exemple, ça va sûrement te parler dans ton propre vécu. Il y a des options d'agrandissement du texte qui peuvent être offertes par ces gadgets-là.
Oui.
Puis il arrive que les contenus disparaissent ou soient coupés quand on les agrandit avec l'option fournie.
Okay.
Parce que le site n'a pas été conçu pour bien redistribuer les contenus dans l'espace disponible au moment d'agrandir. Donc, c'est comme le site, il n'a pas été conçu de manière accessible. Fait que quand tu essaies d'ajouter ça par-dessus, bien, ça ne réagit pas bien.
OK. C'est ça. Finalement, c'est parce que ces outils-là sont génériques.
Oui, absolument.
Il y en a un, puis on imagine qu'en le posant sur n'importe quel site qui était conçu de tellement de différences entre les différents sites, que cet outil-là... Il est générique, puis...
C'est ça, c'est pas magique, malheureusement. Là.
Ouais,
puis
ça.
J'ai plein d'autres exemples qui vont sûrement te parler aussi. Il y a des options pour arrêter les animations dans ces outils-là, souvent, puis ça fonctionne pas toujours. L'autre jour, j'ai rencontré sur un site web que je consultais un carrousel qui arrêtait pas de tourner en boucle, puis ça me tapait ses nerfs royalement.
Mm-hmm.
Puis il y avait pas de bouton pour le mettre en pause, qui fait partie, en fait, des critères d'accessibilité. Puis quand j'ai tenté d'utiliser l'option d'arrêt des animations qui était fournie par l'outil de surcouche, bien, ça parvenait pas à stopper le carrousel. Les deux communiquaient pas ensemble.
OK. C'est ça, un exemple, justement, des limites, là, de cet outil-là, de ces outils-là.
Absolument. Puis là, j'en ai d'autres à trôler, en fait. Il y a des options automatisées, souvent, qui sont fournies pour les contrastes de couleurs. Puis quand tu les utilises, ça va parfois rendre des contenus moins visibles ou totalement illisibles, alors que le but, c'était de rehausser la lisibilité.
Okay.
En comparaison, un site web qui est accessible va intégrer des bons contrastes de texte et de couleurs et tout ça dès le départ, et ou proposer un style alternatif qu'on peut activer au besoin puis qui est spécifiquement conçu pour bien fonctionner avec la page.
OK. Puis ben écoute, je ça as-tu d'autres exemples?
Oui, j'en ai quelques-uns.
Oui, non, je veux pas te couper, vas-y, on
non,
a
non,
du temps,
j'en,
vas-y.
J'en ai quelques-uns parce que je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça met vraiment de l'avant le tout le contraire de ce qu'on recherche, puis ça peut servir d'argument aussi pour les gens qui veulent mettre de l'avant auprès de leurs responsables de site que c'est pas une bonne idée.
Mm-hmm, mm-hmm.
Donc, on a aussi des outils de surcouche qui vont générer des textes de remplacement pour des images. Ça arrive régulièrement que les descriptions qui sont générées, par exemple pour les personnes aveugles et malvoyantes,
mm-hmm.
soient pas pertinentes ou trop longues.
Okay.
Ça tient pas compte nécessairement de la fonction de l'image ou du contexte puis de l'intention de l'auteur.
Okay.
Par exemple, l'outil va se mettre à décrire des images qui sont seulement décoratives puis que normalement, il aurait dû être ignoré par les lecteurs d'écran.
Okay.
Ça alourdit beaucoup la lecture pour ces clientèles-là. Ou encore, pire, pour une image qui sert de lien, l'outil va se mettre à décrire tout le visuel dans l'image au lieu de te dire où est-ce que le lien va t'amener.
Okay.
Fait qu'encore okay. là, c'est très peu pratique.
Mais est-ce qu'il peut se mettre aussi à lire les publicités? Ou... Mais ça, le lecteur d'écran, il va lire les publicités. Si tu es sur un site et qu'il y a des publicités qui arrivent, le lecteur d'écran...
C'est sûr que le lecteur d'écran, dans le fond, c'est un outil de médiation qui va te transmettre l'information qui se passe à l'écran, puis les comportements, tout ça, qui va te donner aussi des informations de contextualisation, par exemple, est-ce que c'est un lien, un titre, etc.
Oui, okay.
Fait que tout ce qui est présent, il va l'intercepter. Puis c'est sûr aussi que si le site n'a pas été optimisé pour une présentation conviviale de l'information, bien, le lecteur d'écran va passer au travers de cette jungle-là, effectivement.
OK.
Puis quelques derniers exemples très concrets. Parfois, l'outil puis les ajouts que ça va faire dans la page, c'est pas traduit en français ou à moitié traduit. Puis en fait, il y a plein d'autres problèmes qui sont pas ou peu corrigés par ces outils-là, comme le fait d'assurer un ordre de lecture logique des contenus dans une page. Ça répare pas non plus les fichiers téléchargeables comme les PDF qui peuvent être non accessibles pour des gens qui ont des limitations.
Okay.
Ça sous-titre pas les vidéos. Bref, il y a un paquet de choses que ça ne fait pas. Puis, en dernier, pour finir cette question-là, je dirais en fait qu'il y a beaucoup d'options qui sont fournies par ces outils-là qui reflètent un manque de compréhension des clientèles de l'accessibilité. J'ai deux derniers exemples.
Okay.
Il y a certains outils qui proposent des options basées sur des profils de limitation. Par exemple, des limitations visuelles, des limitations motrices, etc. Mais ils vont permettre d'activer un seul profil à la fois, comme si c'était impossible d'avoir plusieurs limitations.
OK.
Ou encore, on voit souvent des options de lecture vocale qui sont proposées puis qui vont lire la page web de bout en bout. Ça, cette option-là, c'est un peu délicat, là. Je veux nuancer un peu. En fait, c'est que ça tient pas compte du fait que la plupart des clientèles ne fonctionnent pas comme ça puis vont vouloir atteindre rapidement des endroits précis de la page comme elles le font avec leurs outils d'adaptation réguliers. Alors, lire quelque chose de bout en bout, ça peut être intéressant pour un article spécifique ou du texte suivi, mais naviguer dans un site web, par définition, c'est pas linéaire. Puis si la personne, elle a besoin d'un lecteur vocal pour naviguer, bien, il y a fort à parier qu'elle utilise déjà un outil d'adaptation qui va répondre à ce besoin-là pour interagir avec son ordinateur puis se rendre jusqu'à votre page.
OK. Mais après toute cette énumération-là, Émilie... Pourquoi sont si populaires, là? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces outils-là de surcouche sont si populaires là, auprès de peut-être pas nécessairement des gestionnaires, mais des gens qui... des gestionnaires de sites, puis tout ça, là, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si populaire?
C'est une très bonne question. Il y a plusieurs facteurs, là, évidemment, mais je pense que dans plusieurs cas, ça part d'une bonne intention, mais aussi d'un manque d'information. Dans les dernières années, il y a de plus en plus d'organisations qui ont pris conscience de l'importance de rendre leur site accessible, mais ils n'ont pas toujours les ressources ou les connaissances pour le faire, puis les prestataires web avec lesquels ils font affaire non plus. Alors, les outils de surcouche d'accessibilité, c'est souvent vendu comme une solution rapide, peu coûteuse à mettre en place pour rendre des sites web accessibles. Alors, ça peut devenir une option qui est séduisante pour les organisations qui connaissent un peu moins ça puis qui veulent bien faire. Puis aussi, pour les organisations, j'ai l'impression que ça représente quelque chose de concret, de tangible. T'installes un petit bidule, ça te donne l'impression d'avoir agi au bénéfice des clientèles qui veulent aider, en fait. Sauf que la réalité, comme on l'a vu plus tôt, c'est que ces modules-là ne s'attaquent pas au cœur du problème. L'accessibilité, c'est pas une option qu'on rajoute en surcouche d'un site existant. Mm-hmm. C'est vraiment une préoccupation qui doit être au cœur du processus de conception puis de mise à jour du site. Okay. Puis justement, et je suis sûre que tu l'as bien perçu, quand on ajoute des mesures d'accessibilité après coup dans un petit module, au lieu de les intégrer à part entière dans la conception du site, bien, ça crée plein de problématiques comme on a pris la peine d'exemplifier plus tôt et surtout, ça ne rend pas les sites web conformes okay. aux normes d'accessibilité. Okay.
Mais là, si justement, on recommande là, d'éviter ces outils de surcouche-là, là, c'est quoi la solution là, selon toi? Là, comment on peut...
Il
y a des vraies solutions. Là.
Une autre très bonne question. Merci, il ne suffit pas juste de pointer les problèmes. Il faut aussi trouver des solutions. Alors, je crois qu'un des fondements d'une solution durable, puis le RAM s'investit beaucoup à promouvoir ça, c'est la formation en accessibilité numérique.
Okay.
De la formation qui va être adaptée aux différents profils de personnes impliquées dans la conception des sites web, mais aussi de la formation pour les personnes qui mettent à jour des contenus web, okay. qui font de la gestion de projet, qui vont dialoguer avec les prestataires de services et devoir rédiger des appels d'offres où ils vont inclure des requis d'accessibilité, entre autres choses.
OK.
Parce que au final, tout le monde est co-responsable de l'accessibilité numérique puis a un rôle à jouer là-dedans. Ça ne peut pas reposer uniquement sur les épaules d'une seule personne puis encore moins sur un petit module automatisé qu'on installe une fois que le site est terminé.
OK.
Aussi, c'est mon opinion, je pense que plus il va y avoir de ressources adéquatement formées en accessibilité sur le terrain, plus ça va se ressentir dans l'offre de services qui est disponible. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est que ça devienne de plus en plus facile pour les organisations, peu importe leur taille, leur budget, de trouver des prestataires qui ont des équipes aptes à intégrer l'accessibilité au cœur des projets puis à assurer une conformité aux standards.
OK. Ben merci.
J'ai
beaucoup.
Juste ouais, un dernier point. Petit okay. truc
Parfait,
pour conclure, si tu me le permets.
Oui, bien sûr.
Parce que ça va rejoindre des questionnements à beaucoup de gens. Souvent, les raisons invoquées par les organisations qui se tournent vers les outils de surcouche, c'est des questions de temps et de coût. Mais quand on tient compte de l'accessibilité dès le début d'un projet, puis qu'on va solliciter des prestataires compétents, on va économiser beaucoup en temps et en argent. Alors, dans les équipes qui sont adéquatement formées, puis qui tiennent bien compte, qui comprennent bien les besoins des clientèles qui ont des limitations, l'accessibilité va devenir un réflexe, pardon, okay. une habitude à toutes les étapes du développement.
Okay.
Puis le temps de développement, lui, il change pas ou peu.
D'accord.
Donc, ça serait comme ma ligne finale.
D'accord. Bien, écoute, on peut inviter les gens qui font face à cette problématique là, de visiter le site du RAM. Donc, au raamm.org, puis d'aller à la section service au grand public et vous allez avoir toutes les informations nécessaires autour des formations qui sont offertes par le RAM. Formation de 45 heures, formation de 30 heures, justement, sur toutes ces problématiques là, de l'accessibilité du web.
Oui, effectivement.
Merci beaucoup, Émile Vio, d'être venu nous parler de cette problématique et
Merci,
de nous
Alain.
Amener aussi des bonnes et belles solutions. À une prochaine.
Merci.
De retour à Mission Vision pour cette dernière animée par Alain Renaud en partenariat avec le RAM. J'ai décidé de me faire un petit cadeau, puis je reçois le directeur d'antenne de Canal M pour cette dernière. Bonjour, Philippe Lapointe.
Mais bonjour, je suis très content d'être là. C'est un beau cadeau que tu me fais.
Ah, ben ça me fait plaisir. Écoute, on s'est croisé à quelques reprises à la station, puis c'est un parcours quand même assez incroyable, puis je me disais, ben ça serait bien de le partager avec les auditeurs de Mission Vision, parce que en particulier, tu as t'es derrière la fondation de Ami Télé.
Oui. Donc,
et puis, ben, c'est ça.
Ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans, c'est ça, 2014 ou quelque chose.
Ouais,
si
2014.
On calcule 24 moins 10.
Oui, oui.
Je suis bon en maths. Et puis, ouais, c'est ça, je trouvais que c'était vraiment comme une belle opportunité parce que c'est ça, je veux quand même que. On prend 40 minutes ensemble, puis il y a un parcours que les gens peuvent, entre autres, lire sur un livre que tu as publié, écrit en 2021, je pense. Oui, c'est ça.
Oui, ouais, pendant la pandémie. C'était mon œuvre, mon travail de pandémie.
Bien, la pandémie a commencé en 2020, puis tu l'as publié en 2021. Tu as quand même donc...
Bien, ça m'a pris du temps à écrire ça. Écoute, le livre s'appelle « Aventure au pays des nouvelles télévisées » parce que j'ai fait ça... Plus jeune, moi, j'ai eu l'opportunité unique de diriger les deux grandes salles de nouvelles au Canada français télé, c'est-à-dire que j'ai dirigé l'information à TVA et l'information à Radio-Canada. C'est unique.
Ouais,
il y a un élément de chance là-dedans, puis de timing, parce que, tu sais, bon, j'imagine que j'étais capable de faire le travail, mais c'était aussi, tu sais, c'est le genre de choses qui n'est pas supposé arriver. Puis j'ai beaucoup aimé l'expérience, ça a été extraordinaire dans ma vie. Et tout ça avant d'avoir l'âge de 40 ans. Donc, je suis revenu là-dessus, puis j'ai écrit un livre qui raconte, dans le fond, les grandes années, un peu de l'âge d'or de l'information télévisée, où j'ai eu la chance de travailler avec les Bernard de Rome, puis les Pierre Bruno, puis les Simon Durivage, Denise Bombardier, et tous les grands de ce monde, qui étaient mes idoles de cégep. Puis là, ça a été une belle expérience. Donc, je raconte ça dans un livre qui
aux éditions Libre Expression.
Oui, je suis très content du livre, puis ça s'est bien passé. Puis,
en octobre 21.
Oui, bon, écoute, je ne me rappelle pas de la date, mais ça s'est bien passé, puis la réception était bonne, j'étais très content.
Puis, ben, c'est quoi? Hey, j'ai une question que j'avais pas prévue. Être passé de Radio-Can à TVA, est-ce que l'inverse aurait pu? Aurais-tu pu passer de TVA à Radio-Canada?
En fait, je suis passé de TVA à Radio-Canada et je suis revenu à TVA.
Ah, OK.
Totalement imprévu que je revienne à TVA, mais la direction de TVA avait complètement changé. Le nouveau président s'appelait Daniel Lamarre, qui est devenu président du Cirque du Soleil après.
OK, OK.
Qui a été mon patron à TVA dans ma deuxième vie à TVA. Puis j'ai adoré travailler avec Daniel. Puis ensuite, Québécois a acheté TVA, puis j'ai travaillé avec M. Pilado, puis Arcade Pilado. J'ai adoré l'expérience aussi, c'était un homme très inspirant. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des patrons, puis des présidents, puis des propriétaires d'entreprises exceptionnels. J'ai vraiment été chanceux, en fait. Dans la vie, il y a une question de timing et de chance, mais comme je dis, j'imagine aussi que j'étais capable de faire le travail, mais j'ai été privilégié de faire tout ça. Puis éventuellement, ben, je me suis trouvé à diriger aussi la radio Parler de Cogeco, donc le 98.5, Paul
Arcand.
Et après ça, j'ai publié le livre, mais avant ça, il y a 10 ans, donc j'ai lancé la chaîne Ami Télé.
C'est ça, parce que j'allais te demander, c'est sûr que dans le livre, tu parles de tes expériences, surtout au niveau, ben, c'est ça, des nouvelles, donc la salle de nouvelles. Avec tout ce que ça a comporté pendant cette période-là, de 80 à 2000.
80, à peu près, mais tu sais, ça a été... dans le fond, j'ai l'impression d'être très, très vieux, parce que c'est comme si ça fait longtemps que je fais toutes sortes de choses. Puis Ami, ben, c'est arrivé un peu... j'avais... j'ai toujours été animé par une espèce de conviction très profonde, et puis c'est familial. Mon père était dans l'univers, dans le travail social et tout. Un des fondateurs de Boscoville, entre autres, puis qui a travaillé beaucoup avec les étudiants et tout. Et tout. Alors, bref, c'est de famille, mais aussi de conviction d'une société aussi riche que la nôtre, tu sais, traite aussi mal ces personnes mal prises. Quelque chose que je trouve absolument inacceptable. C'est une façon, Ami, comme Canal M aussi, de contribuer quelque part. Puis en toute modestie, c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins qui étaient tellement immenses. Puis Ami, ben, ça a été un beau succès. Puis je suis très, très, très content Écoute, puis j'ai lancé la chaîne. J'ai travaillé là à peu près un an et demi. Puis après ça, les deux gens qui ont pris la relève qui font un travail fantastique actuellement. Moi, je regarde ça, là. C'est assez extraordinaire que fait Ami Télé.
Je pense qu'elle a quand même fait sa place dans l'univers médiatique, télévision, parce que j'ai beaucoup parlé d'audio-description dans mes épisodes de Mission Vision. Et puis j'ai remarqué, là, je dirais même juste dans la dernière année, des blagues sur audio-description.
Oui.
Tu sais, c'est devenu quelque chose que je pense que les gens ont vu beaucoup à Mi-Télé, entre autres.
Oui, c'est à Mi-Télé qui a vraiment été la première chaîne à faire ça de façon systématique. C'est de plus en plus répandu.
Puis je pense que les gens qui ont pas de limitation visuelle vont, en zappant, vont tomber dessus. Sont tombés dessus un jour ou l'autre.
Oui, oui. Puis c'est un service qui est vraiment essentiel pour les personnes qui sont en situation d'handicap visuel.
Mais toujours surprenant pour une personne qui n'est pas en situation d'handicap visuel.
Oui, parce que ça fait un peu redondant, une description des détails, mais tu n'es pas obligé de l'écouter.
Non.
Chez Ami Télé, oui, si tu écoutes Ami Télé, tu regardes Ami Télé, ou tu écoutes Ami Télé selon ton niveau de vision, là, mais tu sais, forcément, c'est intégré. Mais dans les autres chaînes, puis ce qui est formidable, c'est que ça s'est répandu dans les autres chaînes, comme facultativement.
Oui, ça
s'est beaucoup répandu. Okay. Puis à Mi-Télé, comme Canal M, avec qui on partage beaucoup de choses avec Mi-Télé et Canal M, là, on n'est pas organiquement liés, mais on est amicalement liés, je dirais. Dans ce cas-là, on partage le fait qu'on n'est pas en compétition avec personne. T'sais, si les autres chaînes décident d'en faire plus pour les gens qui sont malades, on est juste contents. T'sais.
Okay. Oui.
Donc, c'est comme ils nous aident à remplir notre mission. C'est formidable.
Non, c'est vrai. Mais ils viendraient chercher des codes d'écoute, mais bon, on n'est
pas un service commercial. On est un service Ami Télé comme Canal M. Oui. C'est des services qu'on appelle dans le jargon bureaucratique des 9-1-H au CRTC. Donc, c'est des services obligatoires sur la base du câble.
Okay.
Et ça sert à... C'est un service essentiel.
Okay,
c'est pas un service commercial. Tu sais.
On
fait pas d'argent.
Non.
Mais on roule pas sur l'or, comme tu sais.
J'imagine. Oui. Mais c'est ça, on est quand même toujours à la merci, ou en fait, pas nécessairement l'expression que je devrais utiliser, mais c'est le CRTC. Si on abolit le CRTC, si Poilievre prend le pouvoir puis abolit le CRTC, c'est ce genre de service qui pourrait disparaître. Je fais un scénario catastrophe, mais
c'est une bonne question, en fait. Pas tellement l'élection de Poilievre,
mais
l'ensemble de l'œuvre. Moi, je pense que dans notre société, il y aurait de la pression quand même. Je pense que c'est des services essentiels. Uh-huh. C'est pas des services essentiels. On dit pas ça pour le fun, là.
Okay.
C'est parce que des gens qui sont pas servis par les médias actuellement, puis c'est tellement important de les servir qu'il faut le faire. Je pense pas qu'ils vont. Je pense pas que personne va jamais vouloir fermer ça. Je pense qu'il faut maintenir ces services.
Écoute, une chose que tu m'avais raconté, c'est comment ça s'est fait, là, comment tu étais appelé, puis comment tes premiers balbutiements d'Ami Télé, dans le fond, qui existait à Toronto en anglais. Finalement, tu étais approché pour partir la chaîne.
Et Mathieu qui me fait signe qu'il faut qu'on arrête dans 20 secondes.
C'est bon,
Je suis le. J'attends.
On te revient.
Oui, parce que ça va durer plus que 30 secondes, mon histoire.
Non, je voulais dire.
Il faudrait que je le fasse en 15 secondes.
Je voulais dire qu'on va en parler après la pause. C'était là où je t'amenais.
À tout de suite.
Vous écoutez Mission Vision avec Alain Renaud.
Eh bien, je suis de retour avec Philippe Lapointe, le directeur d'antenne à Canal M. On discute, puis on fait le tour un peu d'un parcours assez extraordinaire au niveau des médias, parler, écrire, parler et...
Oui, toutes les sortes.
Oui. As-tu touché au journalisme écrit?
Oui, j'ai commencé.
Oui, c'est vrai.
J'ai commencé dans la presse écrite, oui.
J'ai
beaucoup aimé ça.
C'est vrai.
Et puis là, je suis un peu de retour marginalement parce que je suis sur le conseil d'administration de La Presse. Je suis très fier de ça. Parce que La Presse fait un travail fantastique dans les médias, parmi les médias québécois. Je suis très fier de faire partie de...
Du conseil
d'administration de La Presse,
J'avais pas ça dans mes notes.
Ben non, tu vois, il s'en passe des affaires.
Oui. C'est récent ou non?
Oui, c'est récent. C'est récent. C'est assez nouveau.
OK. C'est un scoop.
Un scoop, je suis très fier de ça. très fier de ça. Mais d'ailleurs, j'en profite, avant que tu reparles de mon parcours, je vais parler du tien deux minutes, parce que j'ai toujours peur de manquer de temps.
Ah, OK.
Puis toi, dans le fond, c'est ta dernière émission.
Oui, comme animateur.
J'espère que tu vas revenir aussi et animer d'autres choses éventuellement. Écoute... Écoute, je dois surtout te dire merci, bien sérieusement, merci, parce que c'est un super travail que tu as fait. Là.
Merci.
Puis c'est vraiment... L'émission qui est essentielle, qui est importante, qui est très, très bonne. Puis Comme dirait mon père, t'es bon en maudit.
Je
trouve ça dommage que tu t'en ailles. En même temps, c'est la vie là, qui t'amène à...
Les obligations.
Les obligations, c'est ça.
Toi. Pas familiales, là. Mais avec le travail, on a d'autres...
C'est sûr. Puis Canal M, il n'y a aucun animateur à Canal M qui gagne assez pour dire que c'est son seul travail.
Ouais, c'est ça qui va laisser tomber son... Non, c'est une question de mission pour mon poste au RAM.
Au RAM, puis le RAM était un organisme, évidemment, très important. Donc, je comprends, mais je voulais juste te dire merci. Officiellement.
C'est super fin. Écoute, moi, j'avais un peu. C'était drôle parce que quand j'ai eu l'idée de t'inviter à l'émission, je disais, c'est drôle, ça va faire têteux, le gars, il invite son boss. T'sais. Mais non, parce que. dernière émission.
Oui, pour le. Non, puis on n'est pas très hiérarchique à Canal M. On n'est pas une grosse organisation.
Non, c'est puis pas, c'est pas ça. Il n'y a pas de salaire pour faire en sorte que je peux vraiment dire que je suis en train de. Soudoyer la direction sûr, en l'invitant. Fait que, pour revenir à nos médias et nos moutons, c'est ça, je voulais quand même te présenter tantôt au début, avec mes limitations visuelles, Emission Vision, j'ai oublié des feuilles ou j'en perds des bouts, mais c'est ça, on a parlé de journalisme écrit, parce que je pense que tu as commencé comme journaliste, tu étais réalisateur, producteur, puis avant d'occuper, comme on disait tantôt, là, des postes de direction, des nouvelles télévisées à Radio-Canada et à TVA. À TVA, vice-président information, puis vice-président principal au réseau TVA. Puis tu as œuvré, là, c'est ça, dans les hautes directions des plus... là, je lis mon texte. Dans les plus grands groupes de médias. Donc, on a parlé de production Pixcom. Non, on n'avait pas parlé. Ouais. TC Média, donc Transcontinental, Cogeco. En tout cas, c'est ça que j'allais dire tantôt. On a juste comme 40 minutes, là, même qu'il nous en reste presque plus, pour parler de tout ça.
Mais juste lire mon CV, ça va prendre 40 minutes parce que je suis rendu comme... On dirait que j'ai 108 ans quand j'écoute ça.
Ouais, non,
j'ai
fait
beaucoup de choses, puis j'étais, comme je l'ai dit, il y a un élément de chance. J'ai beaucoup de plaisir à travailler toujours très fort. J'ai consacré beaucoup d'énergie à mon travail. Puis là, puis Ami, c'est arrivé d'une manière... imprévu, okay. C'est-à-dire que je m'attendais pas quelqu'un. En fait, j'ai été appelé par ce qu'on appelle un chasseur de tête en anglais, un headhunter, qui m'a dit on cherche quelqu'un pour lancer une chaîne francophone qui est l'équivalent de AMI TV à Toronto. Ça appartient à une entreprise d'économie sociale, qui s'appelle Accessible Media Inc.
Okay.
Puis donc c'est AMI. AMI.
Qui fonctionne en français.
C'est en anglais à AMI. Puis là, il avait une licence au CRTC pour lancer la chaîne francophone. Puis moi, quand ils m'ont appelé, le docteur m'a appelé, il me raconte ça, je suis allé les rencontrer. Puis là, j'ai dit non, parce que j'ai dit, écoute, c'est un peu ridicule de la télévision pour les aveugles, tu sais. C'est comme faire de la radio pour des sourds. Puis en passant, on en fait aujourd'hui à Canal M de la radio pour les sourds avec une émission qui s'appelle Femmes sourdes et courageuses qui va être sur YouTube.
OK.
Puis que les gens avec des. Tu sais, donc c'est, non seulement c'est pas ridicule, après ça, je suis allé sur le web lire là-dessus, puis j'ai dit, bon, c'est vraiment extraordinaire. Et fait que j'ai accepté le défi, puis j'ai vraiment adoré faire ça.
Ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était en 2014. Donc c'est vraiment le
2014?
Oui, le lancement d'Ami Télé.
OK. Le lancement, oui, donc c'est vrai, c'est avec.
Donc c'est l'année avant, oui, forcément, parce que ça fait un an. À peu près ça.
Oui, okay.
Et la première personne que j'ai consultée pour savoir quoi, parce que moi, je suis pas handicapé, j'ai pas d'handicap visuel.
Oui. En fait, tu connaissais pas l'audio description non plus à ce moment-là.
Je connaissais rien de cet univers-là. Mais pour le connaître, j'ai rencontré des gens, j'ai formé d'abord fallait lancer une chaîne. Tu sais. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai formé un comité consultatif et la première personne que j'ai consultée s'appelle François Beauregard, que tu connais bien, avec qui tu joues au hockey.
C'est sonore. Ça. Puis qui est responsable que je sois ici, le responsable de cette...
Oui, c'est lui qui m'a donné ton nom, que c'est dit, il serait bon, puis Alain serait bon là-dedans.
Un peu fou, François.
Écoute, il y a
d'avoir donné mon nom.
Bon jugement.
C'est une blague.
C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, parce que c'est un gars très solide et de très bon jugement.
OK.
Et,
première personne, donc, t'as approché.
Oui, puis la première chose qu'il m'a dit, c'est parce que je lui donnais des noms de gens que je pensais qu'ils pourraient être des bons animateurs. Il m'a dit, c'est tous des mauvais noms.
Okay.
Il m'a dit, François, c'est un gars qui est très franc, gentil, et mais franc.
Oui,
il m'a dit,
direct.
C'est pas un bon cas. Il faut que tu engages des personnes aveugles.
Okay.
Il faut que tu engages des personnes handicapées visuellement. Il faut que le milieu se reconnaisse et tout.
Oui.
Puis c'est ce que j'ai fait. Alors, la première personne que j'ai embauchée comme animateur s'appelle encore Luc Fortin, qui travaille plus ici, mais il est animateur à Mi-Télé. Okay. Puis ensuite, il y en a eu plusieurs autres. Okay, et ensuite, j'ai approché aussi Marjorie Théodore, qui est la PDG de Vues et Voix, qui est la maison mère de Canalem, c'est le petit monde, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, sur mon comité consultatif. Puis c'est à cause de Marjorie que je me suis retrouvé 10 ans plus tard à Canalem, parce que Marjorie m'a appelé pour me dire, là, je cherche quelqu'un à Canalem, ça te tente là-dessus. Alors, tu sais, c'était un petit monde. Puis, il y avait des gens des fédérations, des organisations de personnes handicapées et tout, dont le RAM était, les gens du RAM étaient dans le comité consultatif, le RAM dont tu fais partie. Donc, c'est tout ce monde-là. Je me suis vraiment entouré de gens qui étaient des gens du milieu. Et puis, ce qui fait que quand la chaîne est... On a lancé la chaîne, c'était pas ma chaîne, c'était leur chaîne, tu sais, c'était vraiment la chaîne du milieu.
Okay.
Ce qui fait qu'on a eu un soutien, tu comprends, je veux dire, c'est incroyable, parce que tout le monde, pour eux autres, pour tous les gens de ce milieu-là qui avaient enfin la chance d'avoir un média pour eux, c'est comme ça qu'Ami a, dans le fond, connu du succès au début. Parce moi, j'étais... Ben, tu sais, je connaissais bien le monde de la télévision, la production, j'avais un parcours qui m'avait... formé pour faire ça, puis j'arrivais chez Ami, je connaissais pas mon contenu, je connaissais pas le monde du handicap, je connaissais pas le monde du handicap visuel, encore moins. Okay. Donc, je me suis entouré de gens qui étaient des experts là-dedans. Moi, je me qualifiais d'expert en télévision, si
c'est
on veut.
Ça,
donc, on a réussi à faire vraiment... je suis très fier de cette antenne-là qui, encore aujourd'hui, fait, écoute, encore meilleur que c'était.
Qui commence à avoir des succès avec une émission comme Vestiaire.
Oui, c'est un très, très beau succès. Ils font de la fiction, mais moi, je trouve ça formidable. Puis Canalem, ben c'est un peu la même chose, sauf qu'on est une mission plus large. On parle vraiment... Canalem, c'est la voie de l'inclusion. Donc, oui, les personnes en situation de handicap visuel, mais aussi une nouvelle émission, comme je disais, sur les personnes sourdes, ce qui est quand même...
c'est un beau...
On a des émissions sur les séries, sur l'itinérance, sur les gens qui vieillissent en situation... tous les gens qui n'ont pas accès aux médias.
Parce que Première Nation.
Première Nation. Il y a un paquet de gens... Il y a une partie de la population qui n'a pas accès aux médias, qui est vraiment marginalisée, parce qu'ils ne sont pas payants. Je parlais à quelqu'un de la banque, je ne vais pas nommer quelqu'un. Une banque, une bien importante banque canadienne.
On va l'effacer au montage.
c'est pas important, qui disait, plein de bonne volonté, on veut parler d'inclusion et tout. Puis moi, je leur disais, mais écoutez, toute la clientèle qu'on rejoint, c'est la clientèle qui ne vous intéresse pas. C'est des gens qui n'ont pas d'argent. Les gens qui sont mal pris souvent, les gens qui ont de la politique. Les gens, le problème des gens qui sont marginalisés et handicapés, c'est qu'ils sont marginalisés et handicapés, puis c'est difficile d'avoir accès à tout. Ils sont vraiment souvent isolés socialement. Fait que nous, on leur donne les micros, on a un tout petit peu de moyens, on a une équipe fantastique, puis on leur donne les micros. Ça qu'on fait. Moi, je suis bien fier de ce travail-là. C'est une équipe. Tu dis, c'est une équipe le fun. Hein?
Ben oui, oh oui, puis avec des émissions.
On réussit à s'amuser quand même.
Il faut.
Mathieu, il fait signe non. Il dit que j'aime être fun.
Mathieu, notre technicien.
Technicien, oui.
Enjoué.
Technicien et
jovial. Autre,
et toutes les tâches connexes. Fait tout, Mathieu, ici.
Parce qu'on est finalement une équipe de combien de personnes environ à Canal M, là, rapidement? Là,
on est entre 6 et 8 000. Donc, on est il y a beaucoup de bénévoles.
Okay.
Mais... il y a une dizaine d'employés réellement
avec
réellement comme des vrais employés.
Puis un financement, c'est ça.
Le financement vient du CRTC, c'est une chaîne qui est obligatoire sur le câble. Donc, il y a chaque personne qui a le câble
le reçoit, c'est vrai.
Elle contribue 4 sous par mois pour Canal M.
Puis ça, on a-tu des... on connaît la situation précaire là, des médias traditionnels en ce moment là, qui se font manger par les Netflix et compagnie. Oui. Est-ce que, justement, la perte d'abonnement pour le câble traditionnel, c'est quand même une menace?
Ça nous fait mal, mais c'est sûr. C'est-à-dire que nous, nos revenus baissent année après année.
OK.
Et c'est sûr qu'on va renouveler une demande de renouvellement de licence qu'on appelle au CRTC dans un an et demi ou un an et quart. Là.
OK. Puis
c'est sûr qu'on a besoin d'une augmentation de revenus.
OK.
Parce que on ne survivra plus. C'est vrai pour Ami, c'est vrai pour nous.
Oh,
puis,
oui.
Puis socialement, c'est rien. T'sais, ce que ça coûte à la société, Canalem, Ami Télé, c'est rien. On ne sait même pas des pinottes. Comme disait quelqu'un ici, c'est des fragments de pinottes. C'est rien.
Okay.
Pour une société aussi riche que la société québécoise, canadienne,
s'occuper
un peu, donner une voix puis une parole aux gens qui n'ont pas accès à rien.
Mm-hmm.
Parce que tu écoutes les grands médias, il y a.
comme en tout cas tenter quelque chose en étant en ayant été à la tête de grands médias privés.
Si je regarde, là, on va faire l'émission sur les femmes sourdes que Julie Châtelain anime. On a commencé à enregistrer l'émission, une série de 8 émissions.
Qui n'est pas encore en
ondes. Non, qui n'est pas encore en ondes. Qui va être sur notre chaîne YouTube avec la langue des signes. Là, bon.
Oui. Avec donc l'interprète.
À ma connaissance, c'est la première fois que ça se fait.
OK, c'est super. T'sais,
donc,
c'est une belle idée.
Si tu es une personne sourde, il n'y en a pas d'émission. Il n'y a rien qui parle des personnes sourdes.
OK.
En quelque part, écoute, on fait notre travail. Puis je trouve que ça vaut de l'or. Puis on devrait avoir une augmentation. C'est qu'on va faire une demande pour ça.
OK.
Je pense que ce serait important. Alors, on est là. Ah.
Julie Châtelain, qui d'ailleurs a participé à les premières versions de Mission Vision avec Pierre Brisebois.
Qui était
chroniqueuse.
Oui. C'est formidable.
Qui était à Mi-Télé aussi.
Qui est amie, puis ouais. Bon. Alors... On est une super belle équipe.
OK. Voilà. Puis c'est ça, comment quand on fait une demande comme ça au CRTC en renouvellement de licence, est-ce que c'est quelque chose qui peut être... Est-ce qu'on peut refuser de redonner une licence à un média comme
bien sûr,
Canal
bien sûr.
M?
Je pense que ce serait extrêmement étonnant que Canal M se fasse refuser.
Ouais,
je vois pas aucun motif possible parce que on est directement dans la mission là.
C'est ça.
Techniquement ça se peut. Okay. Puis le CRTC est évidemment le grand défi du CRTC, puis c'est un autre sujet là, mais c'est que justement t'as mentionné Netflix, mais tu sais avec Netflix puis tu sais les géants du web, eux l'argent va là, puis les gros distributeurs ont moins d'argent. Alors c'est sûr que il y a une grande réflexion actuellement politique dans laquelle on n'est pas beaucoup nous là, mais qui est de comment on va refinancer l'ensemble de la télévision, l'industrie télévisuelle, puis comment protéger l'information, la qualité d'une information libre et indépendante, puis avec une information qui informe les gens d'avoir des fake news d'un côté, puis de l'autre côté, avoir un divertissement, puis la culture québécoise la faire vivre au moment où...
Où t'as
juste les géants du web, puis là, c'est tout en anglais, puis on va se faire manger tout rond, parce qu'on va se faire passer dessus par le rouleau compresseur des géants du web, tu comprends? Et puis ça, évidemment, c'est... À toute petite échelle, ça a un impact sur Canal M, parce que nous autres, on fait de la radio, puis de l'audio en français, puis des balados en français, puis on est... Donc, on est un tout petit joueur.
Okay.
Ben, comme je disais, c'est une goutte d'eau dans l'océan de...
Ben, un peu comme quand on calcule aussi combien ça coûte Radio-Canada par personne, par année.
Bien sûr.
Je veux dire qu'on fait ce calcul-là. Là.
Ben, en fait, on est au Québec très chanceux parce qu'on a Radio-Canada.
Télé-Québec.
Puis même Québécois. Tu sais, les gens dans notre milieu parlent de Québécois en disant Québécois, c'est gros, c'est un géant. C'est pas un géant, Québécois, quand tu compares aux géants du web, c'est tout petit.
Oui.
Mais c'est une entreprise québécoise dont on doit être fier. Comme on doit être fier de Radio-Canada parce qu'ils font une programmation fantastique. Il y a de la place pour tout le monde. La presse, le Journal de Montréal, c'est tous des médias qui sont des médias sérieux et intéressants. T'sais.
Le devoir
aussi, bien sûr. Puis Canal M, là-dedans, on était un tout mini-joueur, puis Ami-Télé aussi, mais on sent une clientèle spécifique qui nous est très fidèle. On a beaucoup de feedback, hein, on le sait. Tu en as sûrement aussi sur ton émission. Là. Les gens suivent. Là.
Ah oui. Puis, sur l'origine de Canal M, si je ne me trompe pas, c'était un service de livre audio. Est-ce que c'est ça?
Ben, Canal M, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'étais pas là à l'époque.
Okay.
C'est M pour Magnétothèque.
C'est l'ancienne Magnétothèque. C'est l'ancien nom.
Oui, qui est devenu Vues et Voix
pour
des livres audio, puis qui avait aussi cette antenne-là sur le câble qui s'appelle Canal M. Depuis 2 ans et demi, 3 ans que je suis ici, on a beaucoup avec Gerly Hormelet, puis surtout Jean-Sébastien La Liberté, puis évidemment Marjorie, puis
les
autres. On a vraiment fait un virage vers plus les balados.
Okay.
Puis maintenant, nos balados sont disponibles sur Spotify, sur Apple Music. Il y en a plusieurs sur Audio, Radio-Canada.
C'est sur YouTube.
Puis avec la chaîne YouTube.
Puis on trouve des balados de Canal M sur Radio-Canada.
Oui, sur Audio. Il y a plusieurs émissions de Canal M sur Audio.
Je ne savais pas. Ouais.
Ben, puis il va en avoir d'autres, là, on va renouveler cette entente-là.
OK. C'est super. Comme Ami-Télé, justement, une entente maintenant
avec
Point TV.
Même chose. Hein, donc, je disais Ami-Télé, nous, on n'est pas liés organiquement, c'est pas la même entreprise du tout, mais on est liés amicalement et philosophiquement. On se parle beaucoup, on est très proches.
Parlant de philosophie, tu as une maîtrise en philosophie que j'ai lue dans ton CV.
Oui. Bien, ça menait ou à faire du taxi ou à travailler en télévision.
À diriger une grande chaîne de ouais, télé.
Moi, j'adore ça, faire ça, la philosophie.
T'étais à l'Université de Montréal?
Oui, j'ai fait une maîtrise en philo à l'Université de Montréal.
Okay, okay.
Sur le langage, la politique.
Puis,
j'ai trouvé ça passionnant. Okay. J'adore ça, la philo.
Puis ensuite, d'autres études après ça?
J'ai étudié, je fais beaucoup d'études de management dans toutes sortes d'universités pour apprendre le métier de gestionnaire. Parce que moi, quand j'ai été nommé, quand ils m'ont nommé vice-président au début à TVA, l'information, j'avais à peine 30, j'étais à la jeune trentaine, puis je connaissais rien, moi, là.
Okay.
Puis je connaissais les nouvelles. J'étais un news guy, comme on dit, mais j'étais pas un gestionnaire. Là, il parlait des actions, puis il parlait des actions de classe A, puis de catégorie B, puis je comprenais même pas de quoi on parlait.
Okay.
Puis, comme tu sais, faire des budgets, mais j'avais aucune idée. Là,
mais t'avais quel âge?
Ben, là, j'étais dans la jeune trentaine.
OK, puis comment tu t'es retrouvé avec un poste comme ça, dans quel...
Je pense qu'on dit, le gars, il est pas nécessairement doué, mais il travaille tellement fort, on se met une dernière promotion pour s'en débarrasser, il va nous achaler tout le temps. Sinon,
t'étais déjà à TVA.
J'étais à TVA, oui. J'avais été réalisateur, producteur, journaliste. Puis,
aux nouvelles?
Aux nouvelles.
Je suis
vraiment un gars de nouvelles.
Okay, t'es vraiment nouvelle de TVA, là.
Puis, je pense qu'il cherchait un bon vice-président et il trouvait personne. Puis, on va le nommer lui.
Okay.
Non, mais ça a été, pour vrai, ça a été comme je disais, des fois, une question de
timing.
De chance. Puis.
Ben, d'entente, c'est ça aussi. Il y a des questions d'affinité avec les personnes qui sont au placé, puis tout ça.
Ben, pas vraiment, parce que je connaissais pas beaucoup les gens, mais
affinité,
oui, visiblement. Puis, affinité avec le travail aussi, parce que je pense que je ne devais pas être trop pire dans ce que je faisais. Mais. Pour la petite histoire, il cherchait. C'est très anecdotique, là, mais c'est plutôt rigolo. C'est-à-dire qu'il cherchait un vice-président, puis mon patron, qui était Mario Bertrand, président de TVA, m'avait dit j'aimerais ça qu'on le trouve ensemble, la personne qui va être ton patron, parce que si t'es pas d'accord, on va être dans le trou, parce que t'es quelqu'un qui a beaucoup de leadership. C'est un compliment qu'il me faisait. J'ai dit c'est gentil, merci. Fait qu'on s'est mis à chercher. Je cherchais avec mon patron. Quelqu'un qui serait mon nouveau patron.
D'accord.
Et on s'est entendu sur le nom d'une personne que moi j'adorais, qui s'appelait Claude Masson, qui est malheureusement décédé, qui était le patron de la presse à l'époque.
OK, ouais.
Les plus vieux se rappellent peut-être de Claude Masson. C'est un homme fantastique. Moi j'adorais Claude Masson. Puis, il avait dit, il a approché Masson qui a dit non.
OK.
Puis Claude Masson m'a appelé, puis il a dit, Philippe, c'est toi qui devrais faire ça.
Ah, ah.
Puis je l'ai dit à TVA, c'est toi qui devrais prendre, fait qu'ils m'ont pris. Si Masson avait dit oui, je ne l'aurais pas eu.
Ben ouais.
Mais Claude était pas. Il voulait pas faire ça. Puis il pensait que.
Il restait à la presse.
Oui, puis il pensait que j'étais le bon
candidat. Okay. En quelle année, si tu viens de ça?
Ça fait longtemps. Là,
oui, non, mais.
Début des années 90. Là.
Puis ça faisait combien de temps que tu étais à TVA?
Ça faisait quand même. Je suis arrivé là jeune, pour une dizaine d'années.
OK. T'es arrivé dans la vingtaine comme réalisateur?
J'étais journaliste au début.
Journaliste,
J'étais à l'antenne, je faisais des reportages et tout. Je n'étais pas très bon, j'étais trop timide.
OK.
Alors, je pense qu'ils m'ont ôté de là rapidement.
OK.
Donc, ça va me nommer patron.
Non, c'est bon. Donc, parce qu'on a un peu de temps pour faire un peu cette histoire-là. Tu me dis qu'après TVA, t'es approché par Radio-Can ou Radio-Canada?
Oui. En fait, à l'époque, si vous se rappelez, à l'époque, ça fait longtemps, c'était avant Internet et tout. Là.
Oui.
On est des années 90, 94, 95.
Au 20e siècle.
Au 20e siècle. 95, c'est le lancement de RDI, qui était la première chaîne d'information continue au Canada français.
C'est ça. Donc, on t'a approché pour ça.
Et la deuxième en Amérique du Nord après CNN.
Oui.
Donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau.
Avant le contrepartie...
Non, c'est en même temps.
CBC et Radio-Canada.
Bonne question. Non, News World a été lancé avant.
Okay.
Ça a été CNN, News World, puis... RDI.
Okay.
Mais très proche. Là.
Oui,
et
oui,
puis,
oui.
Parce que CNN était vraiment longtemps avant. Là.
Oui, oui.
Les années 80.
Toute la renommée. Puis,
Ted Turner et tout. Moi, je dirigeais l'information à TVA. J'étais bien jeune, mais ça allait vraiment bien à TVA. T'sais, on avait le 18h avec Pierre Bruno, les émissions étaient numéro 1. On avait créé.
Oui.
Moi, j'ai fait ça beaucoup dans la vie, moi, créer des émissions de télévision. Là,
okay.
Donc, on avait créé plusieurs émissions nouvelles, dont J.E. avec Gaëtan Giroir.
Oui, c'est vrai.
Ça bien. Le match de la vie, que c'est pas moi qui a créé ça, mais le match de la vie était nouveau, puis ça allait super bien avec Claude Charron.
Okay.
Salut, bonjour avec Guy Mongrain. Donc, ça allait super bien, puis là. Tout à coup, l'idée de lancer une chaîne d'information continue, moi, ça me faisait rêver. Fait que c'est pour ça que je me suis
dit. OK, OK. Claude Charron, c'est le même Claude Charron qui a signé la préface de ton livre?
Oui, oui. Okay, okay. L'ancien ministre.
Oui.
Qui est un ami personnel puis quelqu'un que j'admire aussi énormément. Un grand homme.
Oui, oui, oui. Ben, une figure importante de 76.
Figure
mythique de l'élection de 76.
Claude, qui a une carrière fabuleuse. Écoute, il a été le plus leader étudiant, le plus jeune député, le plus jeune ministre, le premier à reconnaître son homosexualité
en
publiquement.
Puis
il a été un très bon ministre. Ça a passé une carrière dans les médias extraordinaire, toute une vie.
OK. Et puis, donc, c'est ça, mais est-ce que tu... Tu pars, tu es à la direction d'RDI quand ça, on part ça ou vous êtes une équipe là, qui était.
Non, mais moi, quand je suis engagé à Radio-Canada en fin 94, début 95, c'est vraiment le lancement d'RDI. Mais moi, je n'étais pas le patron d'RDI, j'étais le patron des nouvelles.
OK.
Mais les nouvelles, c'est les nouvelles sur RDI aussi, puis c'est une information. Donc,
ça
joue un rôle important dans RDI, mais RDI était dirigé par quelqu'un qui s'appelle Renaud Gilbert, puis Martin Cloutier qui était le directeur des programmes, puis moi, j'étais le directeur des nouvelles télévisées de Radio-Canada. Puis j'avais aussi dans mes émissions, je m'occupais de l'émission du matin, Le Point, toutes sortes d'affaires.
OK. Ça, c'est combien de temps, donc?
J'étais 3 ans et quelques.
OK.
Puis j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai beaucoup aimé travailler au Canada, moi.
Ouais.
Je pensais pas partir, mais j'ai eu une proposition que je peux pas refuser.
Ah, mon Dieu. Frank Cotroni ou...
Non, c'était rien d'illégal.
C'était de TVA, donc.
C'était TVA.
Donc, c'était ton retour.
Mon retour, mais avec c'était une nouvelle équipe à TVA. Tous les gens que j'avais connus dans la direction étaient partis. Puis,
ça bouge, hein, dans les...
Oui, puis c'était un nouveau patron qui était, comme je dis, Daniel Lamar, qui était...
Qui est devenu par la suite...
président du cirque. Et puis André Chagnon, qui était vraiment... qui était un mentor là, pour moi.
OK. Ben, de coup,
André, c'est le propriétaire de Vidéotron.
Vidéotron, oui, c'est ça. Oui, oui, OK.
Qui avait acheté TVA, qui était le propriétaire de TVA.
Oui, oui, OK. Excuse-moi.
Alors, c'est des arcanes de propriété d'entreprise et tout.
Ouais.
Dans le fond, moi, j'étais pas dans ce niveau-là. J'étais dans les dirigeants. Là,
OK. Donc, plusieurs années encore à TVA à ce moment-là?
Oui, je suis resté à passage de 98 à 2005.
OK.
En 2000, Québécois a acheté Vidéotron et TVA.
Ah
donc,
oui, c'est vrai.
Là, c'est Pierre-Carl Péladeau qui est devenu propriétaire. Et puis, donc, j'ai travaillé avec lui quand même assez proche. Puis, j'ai beaucoup aimé l'expérience.
OK. Fait que t'es jamais parti en claquant une porte ou des trucs comme ça?
Non, j'ai pas...
C'est parce qu'on venait t'approcher souvent pour...
j'ai eu la chance d'avoir été beaucoup... de faire proposer des emplois. Okay. Non, celui de Canal M. Mais, tu sais, c'est vraiment... c'est bien. Puis j'adore ça, Canal M. Tu sais, je trouve qu'on a une équipe... c'est l'endroit dans tous les jobs que j'ai faits, je te dirais, où les relations humaines sont les moins compliquées.
OK.
C'est pas compliqué. Tout le monde fait tout. Je regarde Mathieu de l'autre bord, là, tu sais, mais le matin, il arrive avec Hélène Denis. Ils font le café. Moi, je m'installe avec mon ordinateur dans la salle de réunion / cafétéria. Je vois tout le monde rentrer. Je salue tout le monde en mangeant mon gruau. Tu sais, bon, il n'y a pas... C'est pas...
On n'est pas dans une entreprise privée qui doit
être à la recherche. Comme on ne fait pas d'argent, on ne peut pas se chicaner pour l'argent.
Non.
Puis, on sert une mission, puis tout le monde est animé par ça.
Oui, oui.
Mais en même temps, dans la bonne humeur, c'est agréable.
Mais ça, la bonne humeur dans un organisme, dans un regroupement ou dans n'importe quelle institution, ça vient de quelque part. Il faut qu'à la tête, la personne qui dirige, il faut que le gestionnaire...
C'est sûr que si moi j'arrive le matin toujours en maudit, ça doit pas aider.
On parle d'environnement toxique dans certaines entreprises.
On a
des problèmes de gestion, de gestionnaire.
Oui, absolument.
La culture d'une entreprise.
Il y en a des mauvais gestionnaires. Si on est en business, écoute, c'est Marjorie, la patronne, ça fait 25 ans. C'est une femme d'exception. Jean-Sébastien Lesliberté, qui est le gars le plus précieux à Canal M, probablement, parce qu'il fait tout. Et encore plus, il est techniquement directeur des opérations, mais dans la vraie vie, c'est la clé de voûte de l'organisation. Moi, à travers ça, je donne un coup de main, puis on dit, tu sais, il n'y a pas d'enjeu tant mieux.
C'est sûr que peut-être que le fait que tu es un organisme avec une mission, les gens posent dans la même direction.
Oui, c'est sûr que c'est le fun.
Ça l'aide à la cohésion, en tout cas, je pense.
Cohésion. Puis il y a beaucoup de bénévoles, des gens qui sont engagés, tu sais, bénévolement pour donner du temps et tout. Des bénévoles de qualité, c'est du monde d'exception qui viennent faire ça. Là.
Il nous reste 2 minutes. c'est parce qu'on était rendu au moment où tu es passé. J'aurais quand même glissé un mot que tu as quand même été des grandes années du 98,5. Tu es quand même aussi encore oui, là, ben, la sûr, tête, ben, un moment quand même assez...
Ben, j'ai eu la chance, le privilège d'être le patron, entre autres, de Paul Arcand, qui est le plus grand homme de radio que je veux dire que la Terre a porté, puis je pense que ce serait pas exagéré. Vraiment quelqu'un d'exception aussi.
Combien de temps, là, tu étais...
J'étais là 3 ans aussi.
OK. Mais c'est ça, comme tu disais tantôt, ça, c'est des jobs de fou, là.
Oui, c'est des jobs de horaires. C'est des jobs où on travaille vraiment, vraiment. Okay. C'est des jobs difficiles, exigeantes, beaucoup de pression, beaucoup d'heures, des heures dures. Tu sais, tu arrives le matin à 5h30 le matin.
Ce que tu fais plus à Canal M.
Non, je ne suis pas
tout seul à 5h30,
mais je suis vraiment tout seul. Il n'y aurait personne.
Oui, c'est ça. Tu arrives plus à 6h15.
Non, c'est plus cool à Canal M. On travaille fort, mais on travaille dans un climat qui fait que c'est agréable.
Ben, en tout cas, merci Philippe d'avoir accepté l'invitation. Il nous reste une minute, j'en profite pour j'aimerais faire quelques petits remerciements. Donc je suis content de pouvoir te remercier directement. C'est ça, spécialement, c'est ça, on a parlé tantôt, François Beauregard, hein, qui a eu un peu cette idée folle. François qui est au club de hockey les Hiboux. On est coéquipier, puis donc c'est lui qui a décidé de me conseiller, de te conseiller que je puisse prendre la barre de Mission Vision, qui était animée par Pierre Brisebois, qui était aussi un hibou, c'est-à-dire l'équipe de hockey sonore de Montréal. Et puis, je remercie, c'est sûr, le RAM, la direction du RAM, qui m'ont donné l'opportunité là, de pouvoir le représenter avec ce micro, puis faire avancer, parler de dossiers là, qui touchent la communauté des personnes non-voyantes. Puis mes collègues qui m'ont appuyé, puis qui ont participé à cette émission. Puis naturellement, l'équipe de Canal M, puis tout spécialement là, mon metteur en onde extraordinaire, Mathieu Tessier, qui a su appuyer et rattraper plusieurs occasions le brouillon d'animateur que j'étais. Donc, à une prochaine. Merci, Mathieu.